bonjour tout le monde. Alors écoutez, je voulais, vous allez voir un peu que j'ai un peu redéfini par rapport au mon titre, par rapport au résumé. Alors, et je vais expliquer pourquoi. Alors essentiellement, aujourd'hui, je vais parler de 5 choses. Je vais faire une petite introduction pour expliquer pourquoi j'ai recentré un peu à la fois sur le Canada et sur l'enseignement obligatoire. L'essentiel va porter sur un aperçu de l'évolution du champ de l'éducation antiraciste au Canada depuis 10 ans. On va approfondir un cas exemplaire qui est celui de l'Ontario Equity Action Plan. Je voudrais quand même qu'on passe un peu de temps sur les tensions conceptuelles et normatives qu'on trouve dans les politiques canadiennes. Et finalement, quelques réflexions sur les approches à privilégier qui vont peut-être aussi ouvrir vers le panel. Alors, fondamentalement, dans le résumé, Fabrice m'avait entraîné à prétendre que je ferais plein de choses, mais c'est toujours comme ça quand on envoie des résumés 6 mois d'avance, c'est le mois idéal qui se projette, puis après, le mois réel apparaît quand on prépare la communication. Bon, d'une part, il faut rappeler qu'il y a 10 systèmes d'éducation au Canada, donc déjà, c'est comme 10 pays, puisqu'on n'a pas de système fédéral d'éducation. Il y a une grande richesse de l'expérience canadienne pour toutes sortes de raisons dans le domaine. D'autre part, il me semble que de couvrir dans une même présentation l'enseignement universel obligatoire, c'est-à-dire le primaire et le secondaire et l'université, ça paraissait exagérément ambitieux parce qu'aussi, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Il y a quand même quelque chose de très, très, très central à cause du caractère universel et obligatoire de l'enseignement primaire et secondaire qui est plus essentiel sur l'actualisation de l'équité et de l'égalité que l'université. L'université a des défis particuliers aussi lorsqu'on va discuter de curriculum, objectivité des savoirs, etc. Il me semblait que ce n'était pas réaliste d'essayer de couvrir les deux. Et puis, j'avais annoncé que je ferais résolution des dilemmes normatifs. Je suis revenue à un peu de modestie en parlant plutôt de pistes de réflexion sur les dilemmes normatifs. Alors, objectif, je l'ai dit, donner un aperçu de l'expérience canadienne en matière d'éducation antiraciste et de l'évolution des 10 dernières années. Je vais faire une comparaison non systématique avec l'expérience française. Au début, Fabrice m'avait demandé de faire une comparaison. Je lui ai répondu, je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux pas la faire. Après, je n'ai pas pu résister, comme tout universitaire, comme la première phase, quand on dit je ne suis pas spécialiste d'une chose, généralement, on en parle pendant une demi-heure. Alors donc, je n'ai pas pu résister. Moi aussi, je suis une universitaire. Et d'autre part, en plus, je me rends compte que je n'avais pas si mal interprété après 2 jours. Mais bon, c'est non systématique complètement. Je vais décrire d'une manière beaucoup plus approfondie le cas de l'Ontario, comme je l'ai dit, identifier les conceptions, les tensions conceptuelles et normatives, puis des pistes de réflexion, entre autres pour nourrir un peu le panel qui va suivre. Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler au Canada, de façon générale, c'est que le modèle qui est dominant dans l'ensemble des provinces canadiennes, c'est un modèle de politique d'équité, de diversité et d'inclusion. On le retrouve essentiellement dans les politiques qui ont eu, dans les provinces qu'on appelle progressistes, au sens où elles ont eu des politiques d'éducation antiraciste dans les années 90. Elles ont toujours agi sur les questions d'équité et de discrimination. Elles ont une longue expérience dans le domaine. Alors, soit parce qu'elles reçoivent énormément d'immigrants comme l'Ontario et la Colombie-Britannique, ou parce qu'elles ont une vieille communauté noire issue des Black Loyalists dès la fin du 18e siècle, comme la Nouvelle-Écosse. Les Black Loyalists, c'était les esclaves noirs qui ne sont pas liés aux Américains et donc ils ont été libérés par les Britanniques, mais au moment de l'indépendance américaine, ils ont dû se suivre vers le Canada puisque, évidemment, ils n'étaient pas très bienvenus aux États-Unis. Donc, il y a une vieille diversité noire en Nouvelle-Écosse et sinon, il y a une diversité plus récente liée à l'immigration dans les provinces. L'antiracisme comme champ spécifique, c'est vraiment un projet des années 90. On le retrouve à peu près nulle part. On le retrouve en une seule province, l'Alberta. Ça s'explique parce que l'Alberta a été sous une coupe de gouvernement conservateur pendant 30 ans. Ils ont à peu près pas agi dans le domaine. Alors là, ils se réveillent. Là, ils ont une politique antiraciste. Pourquoi ailleurs, on a un peu abandonné les politiques antiracistes? C'est pas une analyse très sociologique. Mais je dirais que d'abord, la multiplication des revendications liées à d'autres marqueurs a été centrale. Actuellement, le gros enjeu dans les écoles, c'est pas la question de la diversité raciale, c'est vraiment la question des transgenres, orientation sexuelle, mais encore plus large, la question de la non-binarité, transgenre. C'est ce qui se discute le plus, finalement. Et aussi, un certain échec de l'éducation antiraciste à actualiser l'égalité, je vais y revenir. Qui finalement amène à une évolution plus vers des politiques d'équité, de diversité, d'inclusion.
Il y a d'autres provinces où on a des actions ad hoc sans encadrement ministériel, généralement parce qu'il y a faible présence d'immigrants, les petites provinces maritimes à l'exception de Nouvelle-Écosse, et puis Manitoba, Saskatchewan, mais qui ont des développements récents assez marqués autour de la question autochtone. Ce sont des provinces où il y a peu d'immigrants, mais où il y a des présences de communautés autochtones importantes, et notamment de communautés autochtones qui vivent en ville. Parce que, évidemment, je ne vais pas faire un discours sur les Autochtones ici, mais juste rapidement, si les Autochtones ne vivent en ville, ils relèvent des autorités d'éducation provinciale. S'ils vivent dans des réserves, leur éducation relève du fédéral et donc et pas discutée dans les politiques d'éducation antiraciste qui relèvent des gouvernements provinciaux. Donc, mais comme il y a une présence de plus en plus dans les villes d'Autochtones, à ce moment-là, ça devient important. Mais il n'y a pas, et finalement, il y a l'exception québécoise qui va vous rappeler la France un peu. Alors, on est plus avancé sur ce qui concerne la reconnaissance de la diversité, politique d'éducation interculturelle, mais dans les politiques qui est en place depuis 15 ans, mais la discrimination est abordée essentiellement à partir d'une perspective individuelle dans la politique québécoise. Ce qui ne veut pas dire que les obstacles systémiques à la participation, à l'égalité sont pas évoqués. Mais ils le sont plus souvent pour les nouveaux arrivants que pour les communautés racialisées de longue date. Et de façon générale, dans les énoncés même, la discrimination systémique n'a pas vraiment émergé. Il y a une résistance sociétale à reconnaître l'existence du racisme et de la discrimination systémique. Certains d'entre vous m'ont mentionné qu'ils avaient suivi le débat où le gouvernement québécois avait d'abord annoncé une commission là-dessus, puis ils ont reculé devant le tollé public. Elle va se faire quand même au niveau de la ville de Montréal, mais au niveau de l'éducation, on ne peut pas dire qu'au Québec, on a vraiment avancé énormément sur cette question-là. Par contre, dans les milieux universitaires, dans les milieux scolaires, y compris dans les milieux gouvernementaux et communautaires, il y a une perspective d'éducation inclusive qui est assez proche de ce Equity Diversity que j'évoque pour l'Ontario, mais elle se passe souvent un peu en marge et pas nécessairement au centre des politiques publiques. Alors, ça explique pourquoi, dans le fond, je préfère parler plus loin de l'Ontario, parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant pour un public français que de retrouver des choses avec les cousins québécois. Quelles sont les grandes caractéristiques un peu du paradigme équité, diversité et inclusion dans les grandes politiques Ontario, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, avec une comparaison vraiment non systématique avec l'expérience française? D'abord, il y a vraiment une affirmation dès le départ sur la multiplicité et l'intersectionnalité des marqueurs. Et il n'y a pas cette tendance que j'ai cru percevoir en France qui était d'opposer souvent le marqueur genre au marqueur diversité ethnoculturelle. Le marqueur genre ayant plus de légitimité, mais sous-entendu, étant d'une certaine façon en défensive face à la menace que représenterait la diversité ethnoculturelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de nationalo-féministe chez nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'instrumentalisation de l'égalité de genre contre l'égalité ethno-raciale, mais on ne le sent pas dans ces politiques où finalement on les aborde comme étant des marqueurs légitimes et non pas des marqueurs opposés. Contrairement à ce qu'on entend souvent dans l'épouvantail communautarien, qui caractériserait l'ensemble du monde anglo-saxon, la centration, elle est sur l'élève porteur de divers marqueurs. Elle n'est pas sur les identités groupales. Mais en même temps, on sent, et je reviendrai dans les tensions, une nécessité de reconnaître certaines appartenances groupales. Les appartenances groupales dont on parle sont généralement pas celles de tous les groupes immigrants, mais on va évidemment parler de la question autochtone, puisqu'en plus les autochtones ont un statut particulier en tant que nation, et d'autre part les minorités noires pour un ensemble de raisons. Donc on va sentir que le discours est sur l'élève comme porteur de marqueurs différenciés, mais en même temps on reconnaît que certaines appartenances ont plus d'impact que d'autres et sont plus groupales et sont plus liées à l'histoire. Quelque chose qui est un peu particulier à mon avis, bien que la réussite scolaire soit visée, il y a un aspect beaucoup plus large sur ce que Françoise appelait dans sa conférence la reconnaissance, le fait de reconnaître les élèves et aussi le droit qu'ont les élèves de vivre une expérience scolaire positive. Donc, c'est pas seulement le droit de réussir de la même façon, mais bien le fait que, finalement, on a le droit d'être dans le vocabulaire, on trouve des espaces safe, qu'on a le droit d'avoir une expérience positive. Et à mon avis, ça reflète quelque chose de plus large qui est le rapport à la scolarité, bien sûr, qui est très différent. En Amérique du Nord, la fonction de socialisation, surtout au primaire, est beaucoup plus importante que la fonction de sélection ou de transmission des savoirs. Et on le voit dans la manière dont les politiques d'équité adressent la question d'expérience vécue des élèves par rapport à simplement est-ce que l'extrant de la réussite est équivalent. Ensuite, centralité du rapport critique avec le curriculum et de sa redéfinition. Encore une fois, c'est une différence aussi qui, à mon avis, est une différence plus fondamentale dans le rapport de la scolarité entre la France et l'Amérique du Nord. Mais en France, je crois que l'objectivité des savoirs est encore fortement portée, même par une grande partie du discours antiraciste, même si la déconstruction est aussi à l'ordre du jour. Je dirais que l'importance du rapport critique avec le curriculum est beaucoup plus centrale dans les politiques canadiennes. Et curriculum entendu non pas seulement par le contenu, mais aussi par la manière dont on apprend et la manière dont on devrait être évalué. C'est vraiment très central dans toutes les politiques dont on parle. L'accent sur la discrimination et les obstacles qui émanent des institutions et de leurs acteurs, qui est vraiment central par rapport au comportement individuel des élèves, on vient d'en entendre parler ce matin. Comportement individuel des élèves, c'est vraiment assez marginal dans les politiques d'équité, d'inclusivité. Et finalement, je sais qu'en France, en tout cas dans les documents que j'ai lus de Fabrice, on considère souvent que lorsqu'on emploie le terme de diversité, c'est un évitement par valorisation folklorique. En fait, dans le contexte canadien, on peut dire que ces politiques d'équité, elles ont coïncidé avec une accentuation de l'action antiraciste. Donc, c'est pas du même ordre. Mais je rappelle que diversité n'est jamais seule, on a toujours le mot équité. Et sans doute que le mot équité est plus important que le mot diversité d'une certaine façon pour expliquer le fait que ça n'est pas une marginalisation de l'enjeu antiraciste. Alors, un cas de l'Ontario Equity Action Plan, qui est en fait un plan d'action, mais qui a été précédé par une politique, mais je trouvais le plan d'action plus récent et plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, tout d'abord, il y a une affirmation comme quoi, d'emblée, alors avant toute chose, l'équité est une condition nécessaire à l'excellence en éducation. Donc tout de suite, il y a un positionnement comme quoi il n'y a pas d'opposition entre l'excellence. Au contraire, s'il n'y a pas d'équité, le système ne saurait être excellent. Donc on désamorce un peu la bombe de est-ce qu'on est performant ou est-ce qu'on est équitable. Évidemment, deuxième objectif de l'équité, c'est d'assurer la réussite scolaire des groupes qui connaissent un déficit de diplomation. Mais très rapidement, on rappelle, mais aussi le bien-être de tous les élèves, y compris ceux qui réussissent. En d'autres mots, le problème n'est pas le problème de l'échec scolaire, le problème est le problème de l'aliénation. Dans certains cas, l'aliénation a pour effet l'échec scolaire. Dans d'autres cas, l'aliénation ne conduit pas à l'échec scolaire, mais conduit au fait qu'on est malheureux. Bon, si on oppose simplement dans les groupes minorisés sans tomber dans la culturalisation, bon, les groupes asiatiques généralement réussissent très bien, mais ne sont pas plus heureux à l'école. Ils ne se voient pas mieux reconnus. Les groupes noirs, par exemple, vont se sentir aliénés et ne pas réussir. Mais dans tous les cas, la politique d'équité, elle vise tout le monde, finalement, l'expérience positive et pas seulement la réussite. Et une chose que j'ai trouvé intéressante aussi, que c'était une condition à restaurer la confiance qu'ont les citoyens dans l'éducation publique, si on veut lutter contre la tendance à l'école privée. L'Ontario est relativement protégé de l'école privée parce qu'il ne la finance pas, contrairement au Québec, malgré son modèle un peu... C'est amusant, les modèles républicains qui financent les écoles privées et puis les modèles supposément communautariens qui ne les financent pas. Mais bon, c'est comme ça. Au Québec, on finance l'éducation privée comme vous faites en France et par contre, en Ontario, on ne le finance pas. Donc, les écoles privées, c'est une petite élite minuscule, 3% de la population. Alors, ce n'est pas un gros enjeu, mais il y a un discours quand même sur le fait que l'équité va restaurer la confiance. Alors, la vision, l'école, ça doit être un lieu où tous et toutes, quelles que soient leurs différences, doivent se sentir en sécurité. Donc, ah mon Dieu, 5 minutes. Écoute, non, ça t'exagère. Écoute, j'ai commencé, ça fait... j'ai une demi-heure et j'ai commencé à 10. Ça fait 10 minutes que je parle. Ben oui. Oui, je sais, mais c'est une demi-heure et 15 minutes de discussion. Je suis désolée. Écoute, je connais mon... J'ai commencé à 10, je fais ma petite demi-heure maximum, 25, et puis il reste 15 minutes. Et tu ne peux pas me rogner le temps que vous avez pris ce matin, je m'excuse. Non, c'est pas du tout. Écoute, c'est juste l'honnêteté.
Tu confirmes,
c'est ça. La notion de safe space que vous reconnaissez sans doute, et la notion de se sentir bienvenu dans le welcome. Je me sens à l'appartenance, la reconnaissance, et que la diversité, c'est pas d'abord quelque chose qui doit être apprise. Elle doit être apprise, mais elle doit être reflétée, vécue dans le curriculum et dans les rapports avec les familles. Alors, je parle en particulier. De la question, moi là, tu vois, tu vas me faire perdre du temps, excuse-moi. Mais non, mais c'est vrai, écoute, une seconde. Oui, voilà. Notamment, comme je le disais, une diversité qui est comprise comme étant non seulement ce qu'on apprend, mais la manière dont on apprend et la manière dont on est évalué. Bon. La politique, elle est quand même complémentaire à des initiatives axées sur un seul marqueur. Il y a une initiative de stratégie de réconciliation avec les Autochtones. Il y a des initiatives à l'égard des LGBTQ et Two Spirit, etc., etc., etc. Vous me poserez des questions si vous voulez savoir c'est quoi les autres marqueurs au-delà de LGBT que vous connaissez sans doute. Une stratégie particulière qui n'est pas en éducation, mais en général à l'égard des jeunes noirs. Un plan d'action aussi gouvernemental sur l'accessibilité aux services. Et elle est mise en œuvre par un secrétariat à l'équité en éducation qui a des ressources et qui est surtout imputable de rendre des comptes à l'Assemblée législative ontarienne. Et il y a aussi cette pression, parce que quand même on est dans un système d'autonomie éducative, il y a une pression finalement pour que les 72 conseils scolaires, qui sont des autorités scolaires élues sur le modèle nord-américain, aient à développer des politiques spécifiques dans le domaine. Alors le gouvernement ne peut pas l'imposer, mais enfin il le recommande fortement. Les champs d'action, alors l'importance, les pratiques à l'école et dans les classes. Alors, on commence tout de suite par ce niveau-là. Alors, j'explique un peu pourquoi. C'est que un des grands constats de l'éducation antiraciste, c'est qu'une éducation antiraciste qui ne change pas la nature de ce qui se passe dans la classe, la nature du savoir, la nature du curriculum, elle fonctionne avec les groupes qui ont le même rapport au savoir que le groupe dominant. En général, les communautés immigrantes, surtout dans un contexte de sélection de l'immigration comme le Canada, les politiques antiracistes fonctionnent bien parce qu'ils n'ont pas un rapport négatif avec le savoir. Par contre, dans les communautés où on a développé historiquement un rapport conflictuel avec le savoir, ce que vous appelez finalement les minorités involontaires, que ce soit des descendants d'esclaves ou les autochtones, effectivement, ces politiques-là dans le monde entier sont un échec. Et ça refait un peu à la conférence qu'on a eue sur la Grande-Bretagne où elle dit que ça a marché pour les Asians, les gens des Indes et tout. Bon, parce qu'évidemment, ils arrivaient avec un rapport à la scolarité qui est un rapport de classe moyenne des élites du tiers-monde. Ça a marché. Ou même quand on est de petite classe moyenne en mobilité sociale dans la plupart des pays en émergence, ben, le rapport à la scolarité, ça va, on va vivre la méritocratie, on veut aller à Yale et Oxford. Par contre, si on arrive avec une culture dans le pays de réception ou qu'on y était déjà comme les Autochtones, qui a un rapport particulièrement négatif avec le savoir construit occidental, eh bien, c'est pas parce qu'on va vous en donner plus de la même chose que ça va fonctionner. Donc, ça a amené finalement à remettre le focus sur les pratiques dans les classes, alors que pendant longtemps, on était dans un focus beaucoup plus macro, en disant, ben, notamment à travers un concept qui est intéressant, qui malgré son nom n'est pas si culturel que ça, qui s'appelle le « Culturally Responsive Pedagogy ». J'ai cherché la traduction de responsive entre sensible qui est pas assez fort et réactif que j'aime bien aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait la pédagogie sensible culturellement, très rapidement, parce que je vois que le temps va passer un peu. Ben, ça demande finalement que l'enseignant se voit comme un agent de changement. Qu'il ait conscience que les structures sociales ont un impact immédiat sur les identités et les chances de vie des individus. Qu'il ait des attentes très, très élevées à l'égard de tous les élèves, qu'il soit conscient que le curriculum est construit et qu'il soit d'accord de le construire avec ses élèves, qu'il ait une connaissance approfondie de ses élèves et qu'il reconnaisse que les parents sont des experts à cet égard-là, et finalement, qu'il soit capable de mettre en pratique des pratiques sensible culturellement. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller plus en profondeur, mais c'est absolument central dans cette nouvelle stratégie. Sinon, on revient à des choses plus classiques. Identifier les barrières systémiques qui affectent certains groupes. On a des filières informelles en Ontario. Ce n'est pas des vraies filières, mais par en dessous, on voit qu'il y a certains cours qui mènent davantage au travail ou à l'éducation professionnelle. La question des suspensions, des expansions, des expulsions, donc colliger des données sur quels sont les groupes affectés et les rendre publics, et évidemment les stratégies novatrices pour rejoindre les parents. Sinon, il y a des choses plus générales que je vais aller moins en profondeur. Un deuxième champ, c'est le leadership, la gouvernance, la gestion des ressources humaines. Mais l'élément central, finalement, c'est que dans tous les niveaux de recrutement et de promotion des personnels, la performance relative à l'équité et aux droits humains fasse partie du recrutement et de l'évaluation. Je pourrais vous donner des indicateurs, mais malheureusement, je ne veux pas nécessairement approfondir. L'importance de colliger des indicateurs et de les intégrer dans la prise de décision. Il y a un débat quand même sur l'aspect éthique délicat de la collecte des données personnelles. Elles sont fournies sur une base personnelle par les élèves et les familles. Elles sont assez extensives en termes d'origine ethnique, de race, entre guillemets. Mais il y a quand même des questions qui ne sont pas encore posées, comme la religion ou l'orientation sexuelle. Mais il y a un débat sur comment on peut gérer ce genre de données de façon à ce qu'elles n'aient pas d'effet pervers, mais qu'en même temps, on doit les colliger. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de discussion comme en France, est-ce qu'on doit ou pas. On doit avoir des données, mais en même temps, comment faire pour qu'elles ne soient pas nécessairement un peu dangereuses sur le plan des effets pervers. Il y a aussi une question sur laquelle je vais revenir si j'ai un peu de temps, parce que ça pose la question quand même des dangers de marginalisation, qui est que les communautés autochtones réclament d'avoir des indicateurs particuliers de succès scolaire et de bien-être qui correspondent à leur propre conception de c'est quoi le succès dans la vie. Et donc, il y a un travail qui va se faire avec ces communautés-là. Sinon, bon, partage avec les conseils scolaires, travail avec les syndicats, évidemment sur les promotions pour que la main-d'œuvre soit représentative. Mais aussi, ce n'est pas seulement le recrutement, mais le fait que le personnel appartenant à des minorités de tous ordres soit intégré pleinement et il n'y ait pas un sentiment de marginalisation. Parce qu'on sait que dans le cadre du Canada, ce n'est pas tellement le recrutement qui pose problème parce qu'on a des problèmes des programmes d'accès à l'égalité, mais c'est la rétention. Les gens, des fois, trouvent que c'est un enfer. Alors, ils partent parce qu'ils sont plus ou moins bien accueillis. Et finalement, le changement de la culture organisationnelle, s'assurer notamment que les comités conseils du ministère de l'Éducation soient diversifiés, d'avoir également un maximum de formation aux hauts fonctionnaires du ministère et toute la question de la collection des données de changement organisationnel. Alors, un mot un peu sur... Oui, quoi? Écoute. C'est vraiment un harcèlement. Écoute, on m'a dit. Mais écoute, on m'a dit une demi-heure. J'ai commencé à I10, Françoise. Je suis désolée. Écoute, c'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai commencé à I10. Alors, et donc, on est reculé jusqu'à 11h. Il est demi. Je comprends pas que.
Ça réduira d'autant la.
Oui, mais on avait dit. Je garde le même. Je suis le programme avec une soumission absolue. Ben non, mais c'est vrai.
Je te propose qu'on renvoie du coup la discussion autour.
Mais je comprends pas, écoute.
On est très en retard.
Je sais, mais écoute.
Vas-y.
Bon, alors, écoute, je prends ma petite demi-heure, on prend le 15 minutes de discussion, puis. Mais non, mais écoute, je m'excuse, non, mais sinon, écoute, je vais pas
traverser. Tu viens de loin.
Oui. Non, mais c'est pas ça, mais pour tout le monde, on a retardé, puis tout à coup, je peux pas couper plus que ça. Écoute. Bon.
Okay.
Alors, je te jure, je tiens mon temps à la minute.
Okay? D'accord, alors, plus rien, alors.
Ouais, c'est okay. Ça. Alors, universalité de la diversité et versus spécificité des marqueurs. Une première tension. Alors, on va voir dans ces politiques-là qu'il y a souvent une coexistence de deux rhétoriques. C'est-à-dire que d'un côté, on a la diversité qui est une caractéristique qui marque tous les élèves, mais on voit en même temps que certains marqueurs sont plus égaux que d'autres. Alors, les politiques la dominance des marqueurs dans les politiques d'équité sont la question autochtone, le LGBTQ, etc., les minorités racialisées et le handicap. Et on constate jusqu'à une certaine façon que certains marqueurs qui ont quand même de l'impact sur la marginalisation, comme la classe sociale et le genre, notamment les garçons, ce qu'on appelle le genre traditionnel, c'est-à-dire vraiment la question des garçons, sont peu adressés. Il y a aussi, on parle beaucoup de l'intersectionnalité, mais on voit pour l'essentiel, l'intersectionnalité est souvent présentée comme une accumulation de handicap, notamment, par exemple, je regardais le glossaire du Toronto District School Board, dans lequel il était clair que on voyait l'intersectionnalité comme l'addition des critères d'exclusion. Et il n'y a pas tellement de discussion sur la non-congruence dans les relations de pouvoir, ce qui pose quand même une question un peu problématique. On le verra lorsqu'on parle de la blanchitude et du privilège blanc. Si on ne le croise pas avec d'autres marqueurs comme la classe sociale, entre autres, ben, on arrive à quelque chose d'un petit peu étrange. Toute la question aussi de est-ce que l'identité est élective ou elle est assignée. Je l'ai dit, la rhétorique est fortement sur l'élève porteur de culture, agent de définition de ses identités dans les énoncés normatifs. Par contre, dans les actions sur le terrain, les programmes de formation, on va voir parfois un certain essentialisme culturel. Ça n'est pas nécessairement un jugement que je porte là-dessus. Je pense que je l'ai dit hier ou avant-hier dans une intervention, on est sur un fil de fer d'équilibre instable entre si j'individualise, je risque de nier l'appartenance groupale qui est critère d'exclusion, et si par contre je la reconnais trop, je risque de culturaliser. Alors, c'est normal évidemment qu'on se retrouve des fois dans des situations d'instabilité. On n'arrive pas à voir très clairement, finalement, si on n'est pas tombé trop d'un côté ou de l'autre. Il y a aussi souvent une ambiguïté, mais ça reflète aussi l'ambiguïté des groupes de pression sur le caractère construit ou hérité des identités individuelles. Par exemple, on sait que comme arme offensive, il y a une récupération du discours marqué sur un seul marqueur, même à la limite biologique, on le voit chez les communautés LGBTQ et même chez certaines communautés autochtones, où on essentialise fortement l'identité comme étant quelque chose d'hérité, non choisi, etc., comme arme de lutte. Alors en même temps, on comprend que dans le milieu scolaire, ça devient un peu difficile de le déconstruire au même moment où pour certains groupes, c'est une arme. Donc il y a quelque chose d'un petit peu ambigu dans beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. La différence entre une pédagogie culturellement sensible ou réactive et une pédagogie anti-oppressive, on sent que ça traverse le champ aussi. Accepter la diversité comme une valeur, c'est pas tout à fait la même chose que développer un rapport critique avec certains types de diversité. Est-ce que toutes les diversités doivent demeurer, notamment par exemple la question de la pauvreté, l'articulation aussi des contradictions potentielles entre une pédagogie culturellement sensible qui à un moment donné risque de reconnaître des éléments un peu plus oppressifs de certaines cultures d'origine par rapport à l'égalité de genre, par exemple, ou à l'orientation sexuelle. Donc, on voit qu'il y a une tension. Par exemple, le Toronto District School Board met l'accent sur une pédagogie anti-oppressive qui va être très critique de certains fonctionnements internes de certaines communautés. Le ministère de l'Éducation est plus prudent dans un respect plus général. Quel est le lien entre la promotion sociale à plus long terme et la redéfinition du curriculum et de la réussite? On veut redéfinir finalement un curriculum inclusif, changer ce que c'est que l'expérience scolaire. Mais est-ce qu'on fait l'arrimage nécessaire avec la transformation du marché du travail? On pense notamment chez les Autochtones en particulier. Bon, ben c'est sûr, si tu restes dans le Grand Nord, il est possible qu'une éducation adaptée à ta propre définition de c'est quoi le savoir, la manière d'apprendre, ce qu'on appelle décoloniser le pouvoir, le savoir, etc. Mais le jour où tu vas immigrer dans le Sud pour avoir un emploi, est-ce que le marché du travail, lui, va avoir changé dans sa manière de fonctionner? Alors, je ne suis pas en train de dire que ça justifie de ne pas changer le curriculum, mais dans les politiques, on voit souvent un manque de lien entre ce changement radical de l'école qui est réclamé et l'arrimage nécessaire. Et on le voit dès les stages, où finalement, le conservatisme revient. Et finalement, quelle est la part de la responsabilité collective et individuelle dans la lutte au racisme? On va parler fortement, évidemment, des dimensions systémiques, mais en même temps, les mesures exigent presque toujours une transformation des individus. Et à ce moment-là, on est un peu comme l'œuf et la poule. Et il y a eu quand même des gros débats sur certaines pratiques qu'on a caractérisées comme des pratiques de culpabilisation. Il y a eu une campagne, par exemple, de White Privilege en Colombie-Britannique où tu rentrais dans les écoles avec des gros portraits où un directeur d'école disait « Je suis blanc, c'est à cause de ça que je suis directeur d'école grâce à mon White Privilege ». Vous pouvez imaginer le niveau de réaction que ça a pu susciter. Alors, et dans le fond, je pense qu'il y a un débat. Je ne dis pas que la reconnaissance des privilèges blancs est toujours une culpabilisation, mais elle peut être vécue sur le mode de la culpabilisation. Et d'autre part, il y a le problème que j'évoquais plus haut, c'est que si on privilégie la blanchitude, c'est la traduction « whiteness » qu'on emploie au Québec, comme marqueur principal du privilège, ben est-ce que ça ne nous amène pas un petit peu à négliger la non-congruence des marqueurs dans les rapports de pouvoir? Alors, en d'autres mots, de faire en sorte que l'homme blanc de plus de 50 ans, déqualifié, qui vit dans semi-chômeur, qui vit dans une région éloignée, il a le pouvoir par rapport à toujours. Et je me rappelle, par exemple, la conférence d'hier, je trouvais intéressante, bon, ben, le fait que, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, vous avez un ensemble de blancs de très, très longue date, irlandais, écossais, etc., qui sont des tinkers, des travelers. Bon, ben, on a donc une histoire, finalement, qui peut faire que la blanchitude doit être croisée avec la classe sociale, doit être croisée avec toutes sortes d'autres éléments, et c'est pas toujours entièrement mis en œuvre. Alors, étant donné que j'ai fait mes 25 minutes, je vais m'arrêter là, et je pourrai revenir sur les pistes au moment des questions. Merci beaucoup.
Merci Marie, c'est d'autant plus, effectivement, contre-productif de te presser que la réalité dont tu parles est complexe et, la complexité également est au niveau des concepts, puisque vous avez au Canada manifestement une façon de parler de ces choses avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de tradition derrière vous aussi que nous. Et donc, on a une difficulté à suivre des deux côtés. Mais en voulant donner la parole à la salle, je voulais permettre que des questions se posent à notre niveau de français. Quoi, parce que la réalité canadienne est complexe. On ne peut pas donner la parole tout de suite sans dire quand même que avec cette complexité, ce sens de l'équité et cette orientation vers l'éthique, Le système dont tu parles est un des plus performants du monde, hein, à PISA. Un des plus équitables et un des plus performants. C'est quand même très important de le dire. Avec un taux d'immigration impressionnant aussi. Hein, taux, ça dépasse de loin la majorité des gamins. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, Marie-Christine Serrato de Benedetti, je vois une question là.
Oui. Voilà. Donc, je commence. Merci. Pour cette présentation qui, pour moi, est très instructive parce que je connais assez peu le contexte canadien. J'avais une question plutôt générale qui est quelle est la place du droit antidiscrimination dans cette action publique d'équité ou de non-discrimination à l'école. Et je la pose parce que j'ai un vague souvenir, donc vous m'excuserez de l'absence de précision de ma référence, mais d'une saisine de la Cour de l'égalité de je ne sais pas laquelle, si c'est l'Ontario, à propos d'une loi du style 100% sécurité à l'école ou zéro délinquant, dont il a, alors saisine, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, le résultat de cette loi qui demandait à appliquer de zéro délinquance à l'école faisait que les sanctions et les exclusions touchaient massivement des enfants en situation de handicap et des enfants, on va dire, minorisés. Voilà.
Je vais prendre peut-être plusieurs.
Oui. On peut aller jusqu'à quelle heure? Je me tourne vers les organisateurs.
Oui, 15 minutes, c'est ça. Ah non, mais
bon. Merci de m'aider pour cette très vivifiante présentation et qui évidemment nous fait en France baver de jalousie. Alors moi, j'ai trois petits points qui te permettront peut-être de développer un peu plus. Le premier au sujet de ce que tu as mentionné sur l'échec des politiques antiracistes auprès des minorités prises dans un rapport historique de domination, notamment la question des autochtones, est-ce qu'il y a un effet positif ou pas, ou comment tu articules ça aux politiques de la reconnaissance de réparation? L'autre point, c'est que tu as mentionné, mais forcément très vite, le passage d'une conception du Québec en termes de politique culturelle ou d'adaptation culturelle, qui était, comme moi j'y suis passé, un peu le maître mot à l'époque des politiques publiques, à une politique anti-oppressive. Donc, si tu pouvais peut-être un petit peu développer ou exemplifier ce passage entre ces politiques. Et puis, plus ponctuellement, tu as souligné la question que ça posait. Je pouvais poser l'adoption de politiques scolaires très, très attentives à la réduction des inégalités et des discriminations et ce qui se passe en fait dans d'autres sphères, notamment dans le marché du travail. Et je voulais savoir, en faisant référence à la conférence ou l'intervention d'Emmanuel Cibeux il y a deux jours sur la question des jeunes qui avaient été amenés au doctorat, notamment dans les départements d'histoire originaires des pays d'Afrique de l'Ouest, et l'incapacité après à passer dans les rangs des recrutements du monde académique. Donc je voulais savoir si dans le monde académique canadien, tu avais quelques données ou quelques éléments sur les efforts de réduction de ce gap.
Tu veux que je commence à premier rang ou il y a une autre question?
Il y a encore une autre question. Christian Poiré. Tu n'as pas ton micro?
Oui, bonjour et merci pour cette intervention. Non, j'ai fait des interrogations sur la consistance des catégories qui étaient utilisées. Alors, je ne sais pas si c'est pour la commodité de l'exposé ou si ce sont les catégories qui sont effectivement mises en œuvre. Mais une catégorie comme la catégorie noire va recouvrir une hétérogénéité de situations extrêmement importante, notamment peut-être qu'on peut faire le lien avec les politiques migratoires, puisque Françoise soulignait que c'était dans un contexte avec une très forte proportion d'immigrés, mais des immigrés qui vont être sélectionnés, et notamment sélectionnés sur la base déjà d'un certain capital culturel des parents, sur le fait d'avoir des liens qui sont déjà présents dans le pays d'immigration, etc. etc. Donc voilà, quid des catégories pour mettre en œuvre ces dispositifs.
Je pense qu'il y en a assez pour un premier.
Je pense qu'il y en a assez, mais il y avait quand même une dernière.
Ok, d'accord.
Je vais essayer d'être.
Ça sera le seul round de questions, peut-être. Allez-y.
J'avais une question sur les termes utilisés, en fait, et une réflexion. Je voulais savoir si vous confirmiez ou pas du tout. J'ai l'impression que certains termes utilisés dans le contexte canadien ne trament pas du tout la même chose qu'en français. Par exemple, lorsque vous parlez des safe zones. Moi, si j'entends parler de sécurité en français, j'entends parler d'insécurité, d'un danger, d'un risque, et donc d'acteurs qui provoquent cette insécurité. Je me demandais si c'était la même chose. Le terme « welcome », pour moi, est beaucoup plus adressé à tout le monde. Alors, quand on parle d'inclusion, j'entends encore que certains sont exclus. Et enfin, le terme d'équité, qui, en français, pour moi, serait le terme d'égalité, qui ramène tout l'imaginaire républicain très lourd et la difficile articulation avec l'école. Et donc ma deuxième question, très rapide, est-ce que dans le contexte canadien, il y a aussi une tension avec un imaginaire très fort lié à la construction politique de l'État, comme on a en France avec l'imaginaire républicain ? Merci.
Oh mon Dieu. Alors, on dit souvent qu'on est un peuple divisé par une même langue. C'est merveilleux. Alors, je vais commencer par votre question à vous, puis je vais reculer, ça va. Alors, non, en fait, le safe, ça vient d'abord et avant tout, notamment des mouvements queer, des mouvements transgenres. C'est vraiment l'endroit où je peux être à l'école sans me sentir agressée. Et agressée par la négation de ce que je suis. Donc, le safe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je suis dans un endroit où je peux être ce que je suis. Sans me sentir agressé. Il peut y avoir, malheureusement, j'ai pas eu le temps de parler dans les... Il peut y avoir un débat jusqu'à quel point ça peut devenir une forme de censure sociale aussi. Je n'ai pas eu le temps de parler de mes conseils sur l'avenir. Par exemple, dans le débat, dans le système canadien, la question, à quel moment, est-ce que quand, à chaque fois que je me sens offensé, est-ce que je devrais être capable de censurer ce qui est dit? Mais au départ, le safe, c'est ça. Je devrais être à l'école et pas sentir que je suis agressé dans ce que je suis, par le curriculum, par les enseignants, etc. Donc, il n'y a pas de négation de ce que je suis, mais c'est plus que ça. Il n'y a aussi, il n'y a pas une agression par le fait qu'on promeut l'hétéronormativité, qu'on promeut l'européanocentrisme, excusez. Donc, les safe spaces, c'est vraiment un peu l'inverse de ce que vous avez dit. Même chose, donc je me sens bienvenue. Ça veut dire justement que l'école appartient à tous. On a insisté beaucoup sur le fait que je rentre à l'école et mon expérience vécue devrait être reflétée. C'est le sens de safe et c'est le sens de welcome. Équité, je vous rappelle que même en France, enfin, moi vraiment, c'est le contraire. Ben, c'est pas le contraire, c'est l'actualisation de l'égalité. Donc, c'est le contraire d'un discours universaliste. Le concept d'équité suppose que j'ai actualisé l'égalité et que pour actualiser l'égalité, ben, justement, j'ai dû, dans certains cas, passer par un traitement différentiel qu'on appelle la discrimination positive. Donc, l'équité n'est pas un concept républicain a priori. C'est vraiment un concept, au contraire, qui veut se distinguer de l'égalité formelle. L'imaginaire, ben, écoutez, bien sûr qu'il doit avoir un imaginaire, je suppose. L'imaginaire canadien, il est un peu moshmallow, excusez-nous, on dit ça guimauve chez nous. Bon, c'est vrai qu'il se projette beaucoup comme étant la société post-nationale, le pays qui a réglé toutes ses contradictions. Bon, c'est pas vrai, bien sûr, on va y revenir là dans la question de monsieur sur les catégories et tout. Mais effectivement, l'imaginaire national canadien crée pas effectivement un discours épouvantable sur la menace identitaire. L'imaginaire collectif québécois est plus, non pas sur un modèle français, mais j'allais dire presque sur un modèle flamand ou belge, en tout cas, un modèle de minorité, majorité minorisée, où effectivement la menace, quand on n'est pas dominant soi-même, peut jouer. Mais globalement, au Canada, non, on n'a pas cette espèce de... Il n'y a pas un discours fortement. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de succès du populisme, je voulais quand même préciser, parce que quand j'ai parlé de l'Ontario, j'ai parlé d'une politique de 2017, il y a quelques mois, c'est quand même, avec un gouvernement minoritaire, un populiste de droite qui a été élu. Donc, il se pourrait que la dernière fois qu'on a eu un gouvernement populiste de droite en Ontario, la première chose qu'il a dit, Mike Harris, c'est « Equity is a dirty word ». Donc, l'équité, c'était devenu un mot tabou. Il fallait parler de l'égalité et non plus de l'équité. Donc, on voit quand même qu'il peut y avoir des mouvements, mais encore une fois, c'est des gouvernements minoritaires. Il va retomber, à un moment donné, les libéraux ou les néo-démocrates vont prendre le pouvoir et on va revenir avec le discours. Alors, voici un peu pour votre question. Maintenant, pour les catégories, écoutez... Je vous dirais que la catégorie statut d'immigration n'est pas une catégorie très importante dans les discriminations et la marginalisation, entre autres parce que, comme vous l'avez dit, les immigrants sont largement sélectionnés. Donc, il y a de la discrimination dans le champ social, très clairement. Il y a une mobilité descendante sur le marché du travail, même chez les gens très qualifiés. Mais par contre, au niveau de l'école, on voit quand même l'aspect capital culturel, capital social. Les deuxièmes générations au Québec sont, entre autres, celles qui ont les taux de diplomation les plus élevés, beaucoup plus importants que les troisièmes générations ou plus, que vous appelez les natifs chez vous, étant plus élevés que les premières aussi. Donc, la catégorie immigrante, elle n'est significative que si elle est croisée finalement avec une défavorisation socio-économique et pas tellement socio-économique actuelle mais dans le pays d'origine, parce que comme je dis, le fait d'être en mobilité descendante dans le pays d'accueil, ça a un impact négatif sur votre vie, mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur vos enfants. Au contraire, ils valorisent l'éducation encore davantage parce que les familles sont venues déjà très scolarisées. Et donc, il faut que ça soit croisé avec ça, ou alors une déscolarisation, ou alors, pour ça j'arrive au noir, ou alors avec le fait que certaines minorités racisées à la deuxième génération ne rattrapent pas, non seulement ils n'ont pas bénéficié de ce qu'on appelle le bonus migratoire, parce qu'en Amérique du Nord, il y a un bonus migratoire, c'est-à-dire que les immigrants réussissent mieux que leur classe sociale d'origine, mais le bonus migratoire qu'on voit à la première, il n'y a pas tellement lieu pour les minorités racisées, et d'autre part, à la deuxième génération, on voit qu'un hiatus persiste. Moi, je préfère parler de minorité noire, on pourrait dire racisée noire, parce que je rejoins tout à fait la collègue de Grande-Bretagne. Le vocable de minorité visible, par exemple, qu'on emploie au Canada, est un euphémisme comme minorité racisée, qui ne rend pas compte du fait que la racialisation n'a pas le même impact, en tout cas dans le champ scolaire, sur la réussite. C'est pas plus gai d'être racialisé quand on est asiatique ou d'origine indienne, asienne, mais au bout du compte, quand on regarde où est la persistance de l'échec scolaire, il n'est pas nécessairement chez les minorités racialisées, il est chez les minorités qui ont une histoire d'oppression historique, comme tu l'as bien dit. Ce qui fait, par exemple, que les Africains ont une excellente réussite scolaire au Québec, comme d'ailleurs on avait déjà étudié aux États-Unis la différence entre les gens qui immigraient d'Afrique par rapport aux descendants d'esclaves. Il n'y avait pas le même pattern de rapport à la société d'accueil. Donc, c'est pour ça que la notion de racisme aussi doit beaucoup être regardée critiquement par rapport à l'expérience historique. Parce que sinon, si c'était simplement le racisme qui expliquait l'échec scolaire, ben, les Africains auraient le même problème parce qu'ils sont victimes de racisme. Mais fondamentalement, le rapport historique d'oppression est très, très important. Donc, moi, pourquoi j'emploie la catégorie noire, mais qu'on emploie encore, c'est qu'il y a une entente assez générale comme quoi les minorités noires n'ont pas été servies par les politiques antiracistes. Ils ont peut-être été servis en termes de qu'on a reconnu mieux le racisme, qu'il y a eu une reconnaissance de ce qu'ils étaient, mais en termes de réussite, c'est exactement ce que la collègue a dit hier au niveau de la... Je m'excuse, c'est un peu long, mais quand même. Rapidement, vous m'avez demandé également, attendez un petit peu, la question du doctorat et tout ça. Écoute, je dirais que pour les minorités immigrantes, généralement, comme j'ai dit, elles ont rapport avec le savoir, qui est un rapport assez de type méritocratique, même des fois beaucoup plus que les populations d'accueil. Donc, l'objectivité du savoir est valorisée, le rapport, la méritocratie est fortement valorisée, le rapport instrumental au savoir est dominant chez les populations immigrantes. Donc, elles jouent très largement le jeu du système sélectif et puis éventuellement, l'université, ils sont performants et tout. Alors, par contre, effectivement, dans le cas des Autochtones, il y a la question fondamentale qui est que maintenant, les universités commencent à développer des programmes spécifiques pour les populations autochtones. Et effectivement, ça va poser la question de l'employabilité. Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas simple, effectivement. Par exemple, nous, on va faire en sciences d'éducation. Normalement, la formation est de 4 ans. mais beaucoup d'universités régionales ont des programmes pour recruter des femmes autochtones plus âgées qui ont 35 ans. Ben, à 35 ans, elles sont grand-mères. Des fois, je ne vais même pas me dire qu'elles sont mères. Souvent, elles sont grand-mères à 35 ans et elles retournent aux études et on leur permet de le faire en 7 ou 8 ans, par exemple. Bon, ben, c'est sûr que si on pense qu'elles vont aller travailler sur les écoles de réserve, il n'y a pas de problème d'employabilité. Mais le jour où, si elles veulent continuer une carrière et faire leur doctorat à 60 ans, je doute qu'elles aient un poste à l'université. Il y a l'âgisme aussi, mais ça, ça joue aussi sur d'autres catégories qui ne sont pas racialisées. Là, cette espèce d'ouverture de l'université à tous les âges. Il y a un problème, effectivement. Il y a un mismatch, ça c'est très, très clair, entre l'adaptation qu'on fait des curriculums et le marché du travail. Et on le voit dès les stages, qui est déjà plus problématique, à quel point les minorités qui réussissent bien relativement les études vont des fois échouer le stage. Donc, on va voir qu'on a... Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas le niveau. Il y a aussi parce qu'il y a beaucoup de préjugés chez les gens qui les reçoivent en stage. Mais oui, il y a un mismatch, ça, je ne peux pas dire qu'on a trouvé le miracle. Attendez un petit peu, les politiques de reconnaissance, qu'est-ce qu'on m'a demandé, j'ai oublié. Ah oui, je ne dis pas que le Québec a développé une politique anti-oppressive, pas du tout. Non, au Québec, les politiques anti-oppressives, c'est un discours qu'on retrouve dans certains conseils scolaires militants en Ontario. C'est même pas le discours du ministère de l'Éducation de l'Ontario, c'est le discours du Toronto District School Board, qui est quand même la plus grosse commission scolaire du Québec, évidemment la plus du Canada et la plus multiethnique. Alors effectivement, cette anti-oppressive pedagogy, il est vraiment axé sur quelque chose qui n'est pas communautarien, tout en n'étant pas républicain non plus. C'est-à-dire, c'est la critique des marqueurs dans leur construction, tout en reconnaissant que certains marqueurs vont demeurer dans un long processus, mais on n'a pas un rapport de respect absolu à l'égard de la diversité culturelle. Mais comme je dis, c'est complexe. Parce que c'est pas tous les groupes minoritaires eux-mêmes qui sont intéressés à une approche anti-oppressive. On aime bien l'oppression quand ça critique le marqueur de l'autre, mais quand ça critique nos propres marqueurs et que ça demande de remettre en question, il y a le danger de ce que j'ai ouvert à Françoise aujourd'hui, d'être désarmé finalement. On te dit finalement, t'es un peu ci, t'es un peu ça, tu as une multiplicité. Il y a aussi, alors, par exemple, je pense au cas des femmes voilées, par exemple. On peut, par exemple, faire une critique sur le rapport général des religions et pourquoi toutes les religions demandent aux femmes d'avoir un statut différent des hommes, que ce soit dans l'accès à l'égalité, comme dans le catholicisme, où on peut pas être patron de la fabrique, on peut pas être pape, on peut pas être... Donc, fondamentalement, on peut dire que l'Église catholique est une place oppressive pour les femmes, et alors, dans d'autres domaines, on demande aux femmes de pas s'habiller parce qu'elles sont un objet sexuel alors que l'homme l'est pas, etc. Bon, ceci dit, quand je suis une femme musulmane et que il y a déjà une instrumentalisation massive de ma libération au nom d'un certain féminino-racisme, bon, ben, c'est évident que je ne suis peut-être pas tellement ouverte à faire une critique radicale de ce qui se passe à l'intérieur de ma communauté. Mais théoriquement, la pédagogie anti-oppressive, c'est de questionner les oppressions partout où elles sont. Mais en même temps, oui, la hiérarchie des oppressions, à quel moment je décide de me solidariser avec mon groupe, même si ça suppose qu'à l'intérieur, je fais une négociation. Ben, c'est pas une chose facile à mettre en œuvre et c'est pas la politique dominante, même en Ontario, mais c'est un discours assez présent au Toronto District School Board. Je pense que ça vient du fait qu'il y a eu des clashs très importants vers le milieu des années 90 entre les mouvements homosexuels et les minorités ethno-raciales, notamment, pas seulement musulmanes, enfin tous les groupes qui avaient des conceptions un petit peu plus religieuses de leurs identités. Il y a donc ce conflit autour de l'éducation sexuelle, ce conflit autour de la légitimité de la reconnaissance des orientations sexuelles. Alors, on s'est orienté vers la pédagogie anti-oppressive pour éviter justement que t'aies deux champs finalement. Mais c'est pas une panacée non plus. Rapidement aussi, une dernière chose, droit anti-discrimination. Écoutez, je connais pas l'exemple de ce que vous me dites sur les suspensions. Il me semblait que ça venait plus de la Grande-Bretagne, mais je peux me tromper. Mais effectivement, ce que je dirais, c'est que la législation canadienne reconnaît la discrimination systémique. La discrimination systémique ou indirecte, c'est le fait qu'une norme apparemment neutre, s'appliquant à tous, et qui est mise en œuvre sans intention de discriminer, peut avoir un effet préjudiciable, majeur, plus grand sur certains groupes que d'autres. C'est la base de ce qu'on appelle après l'obligation d'accommodement raisonnable, mais c'est aussi la base, les tribunaux ont dit que l'accommodement raisonnable, c'est vraiment quand on ne peut pas changer la norme, mais que ce qui est préférable, c'est de changer la norme pour avoir une norme inclusive plutôt que de faire une exception. Donc, par exemple, s'il est prouvé qu'une politique de sanctions et d'exclusion a pour effet, même si elle est neutre, mis en œuvre sans intention de discriminer et appliquée également à tous, si elle a un effet préjudiciable massif sur certaines catégories, comme par exemple, je sais pas, les jeunes garçons noirs ou bien les handicapés, ben, il est évident qu'elle va être déclarée, elle va être contre la Charte des droits de la personne. Et alors, et évidemment, dans ce cas-là, on ne va pas proposer un accommodement raisonnable. On ne va pas dire, si tu es noir, toi, tu auras le droit de, je sais pas moi, de faire des dessins sur ton pupitre, mais si tu es blanc, on te demandera de partir pour 2 jours ou de réparer ton pupitre. Donc, dans ce cas-là, on ne sera pas dans un cas d'accommodement. On va dire, refaites votre norme et questionnez-la. Mais on voit que c'est encore un enjeu parce que j'entends parler de ça en Ontario depuis 15 ans. Et là, en 2017, ça revient encore. Il faut ramasser des données pour voir quels groupes sont affectés par les expulsions et les suspensions. C'est rare qu'on expulse un enfant de l'école, mais il y a une tendance à faire des suspensions de quelques jours, etc. Et donc, c'est encore un enjeu important. Mais c'est un enjeu qui touche les garçons, je dirais, particulièrement les garçons racisés, mais les garçons... Parce qu'évidemment, la définition de ce qu'est la discipline, par exemple, la fameuse tolérance zéro, a souvent pour effet qu'on va des fois judiciariser des petits garçons qui se battent dans le cours d'école. Bon, c'est un peu anecdotique, je ne dis pas que c'est entièrement ça. Mais oui, il y a vraiment, donc ce droit-là, il est important parce qu'il nous amène à questionner que la discrimination indirecte est très, très importante dans le système scolaire.
Merci, Marie.